Bonjour, bonsoir. Il est 18h05. Vous êtes sur Radio Campus pour une heure de politique avec Panthère Rouge. Lise, Claire et Clément sont au micro et c'est Lucille qui tient les machines. Ah, comme il est bon de vous retrouver, mes chers amis, pour une nouvelle saison radiophonique. Nous sommes dimanche 22 septembre, le deuxième jour de l'automne, la Sainte-Maurice, l'anniversaire de Charlotte Coutier et plus généralement un jour de cette période de l'année que nous appelons communément la rentrée. Alors la rentrée est pour beaucoup de gens synonyme de changement. Nouvelle saison, nouvelle classe, nouveau appartement, nouvelle ville, nouveau projet, etc. C'est un moment où on décide d'oublier le passé et de repartir sur des nouvelles bases. On achète un nouveau sac, des nouveaux stylos, une nouvelle paire de baskets. On se sépare de ce qui nous semble ne pas marcher. Parfois on quitte le copain ou la copine et hop, on a un grand élan de motivation pour aller péter ses objectifs. Ces grands élans de motivation ne durent rarement plus de 2-3 mois. Mais bon, en 2-3 mois, on peut déjà accomplir quelques petits trucs. Si vous avez besoin d'idées sur ce que vous pourriez faire en ce début d'automne, je peux vous en donner quelques-unes. Alors, on pourrait par exemple virer le préfet. On se met à quelques-uns, on va dire 10 000, et on tape sur les portes la préfecture en criant « préfet démission » jusqu'à ce qu'il se taille. De même, on pourrait virer le président et son gouvernement. Reprendre le pouvoir, quoi. Comme ça, on arrêterait toutes ces réformes pourries, on n'aurait plus à subir les décisions odieuses de l'État, les expulsions des plus démunis, l'augmentation des impôts sur les couches pauvres, enfin la guerre. Oh oui, allez, faites-moi plaisir. On vire le président, on leur montre un peu qu'on n'est pas des moutons, que nous refusons ce partage des pouvoirs, ce partage des richesses inégales. Parce que oui, dernièrement, on peut pas dire qu'on a été en grande forme. On a écouté leurs mensonges en serrant les dents, on a pointé à Pôle emploi comme tout le monde. On a tous pris des coups les plus pourris et les plus tordus de nos hommes, femmes politiques. On n'a même pas coupé la tête d'un monarque. Mais là, c'est la rentrée. Cette année, notre objectif, récupérer notre dignité. Notre dignité à nous tous, sans distinction de couleur, de peau, de religion, d'origine, de nationalité, etc. Au lieu de laisser le monde sans les dire, on va le rendre plus beau. Alors, aujourd'hui, à Panthère Rouge, nous diffuserons une interview de Louisa Toscane, réalisée à la fin de l'été, sur la situation des pays arabes. Puis vous entendrez une interview de Clément de RESF avec qui nous avons discuté des mis à la rue par le 115. Et puis pour finir, Clément nous parlera du livre La fabrication du consentement de Noam Chomsky et Edouard Herman.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μην κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφοί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάτω.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάτω.
Ποιος είμαι απειλήσαν με πύρινα δεσμά. Θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάτω.
Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
σιγάνε κάτω.
Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια χωριά. Που εκεί πάνω της το φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μα δεν και θα φοβηθώ.
Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελεύθερα ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτήν την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάποιου.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάποιου.
Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνατες μα θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε φόβητρο.
Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
σιγάνε φόβητρο.
Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάποιου.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνατες μα θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε φόβητρο.
Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και.
Vous êtes toujours sur Radio Campus pour l'émission Panthère Rouge jusqu'à 19h. Alors Lise, tu vas nous présenter cette interview que tu as réalisée cet été.
Bonsoir, oui.
Bonsoir.
Donc j'ai interviewé Luisa Toscan, c'est fin août. C'est une militante sur le droit des réfugiés. En fait, elle fait beaucoup ça, mais le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les révolutions du monde arabe, la Ola des révolutions du monde arabe, comme elle le dit. Donc cette interview, elle a été réalisée fin août, donc maintenant il s'est passé beaucoup de temps, quoi, un mois. Et notamment ce jour-là, on s'était dit que peut-être tout allait changer, puisque Barack Obama avait dit ce jour-là qu'il allait entrer en guerre contre Bachar, ou en tout cas avait émis cette possibilité de bombarder Bachar. Mais en fait, non. L'interview est toujours parfaitement d'actualité. Bonjour Luisa Toscan. Tu es militante en défense du droit d'asile. Par ton expérience militante et puis par ton expérience propre, tu t'es intéressée beaucoup à tout ce qui concerne les mouvements d'aspiration démocratique, donc les manifestations et les changements de régime dans les pays du monde arabe depuis 2 ans. On entend beaucoup parler de la Tunisie, de l'Égypte, de la Libye, de la Syrie, mais en fait, ça n'a pas touché que ces 4 pays. Quels sont les pays qui ont été touchés par ces mouvements d'émancipation ?
Alors, c'est la majorité des pays qui a connu ce type de processus. En 2010, la Tunisie, en 2011, l'Égypte, le Sultanat d'Oman, la Syrie, la Libye, Bahreïn et le Yémen. L'année 2012, ça a été le Soudan, l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Jordanie et les territoires occupés de Cisjordanie. Et l'année 2013, ça est venu le tour de l'Irak.
Et quelle forme ça a pris, sous quelles revendications, quelles étaient les revendications des peuples ?
Alors, majoritairement, les peuples ont demandé la chute des régimes, à l'exception d'un seul, qui est le sultanat d'Oman, où les manifestants demandent la réforme du régime. Et bien sûr, quand les processus ont duré longtemps, comme c'est le cas en Syrie, on réfléchit déjà à des modèles de société alternatives. Donc on voit aussi toutes les aspirations et tous les programmes qu'on pourrait mettre en place si les dictateurs tombaient.
Au niveau de la forme
Alors au niveau de la forme, on a vu surtout les processus de rue, manifestations et occupations de rue. Ils ont souvent été précédés par des mouvements sociaux très importants ou accompagnés ou suivis de mouvements sociaux type grève, syndicalisation très importante dans une série de pays. Il y a aussi des mouvements qui ont connu des processus de grève générale comme Syrie, Tunisie ou Yémen, qui étaient des grèves pour faire tomber des dictateurs. Mais l'essentiel, ça a été des mobilisations de masse de rue qui impliquent des populations entières, féminines aussi, très jeunes, qui ont défilé de façon improvisée, pacifique dans le sens politique, en occupant les places de façon très rythmée par des rendez-vous, soit hebdomadaires, soit mensuel, dans une totale improvisation, en se donnant des moyens d'auto-organisation progressivement, dont certains ont survécu parce qu'ils sont obligés. C'est les Syriens qui, depuis 2 ans, ont conforté tout un processus d'auto-organisation qui n'est pas seulement maintenant pour organiser les manifestations, mais aussi les secours, les contacts avec la presse, l'alimentation, l'accueil des réfugiés et puis surtout la gestion des zones libérées.
À quel genre de pouvoir les peuples se confrontent-ils ?
Alors, ces peuples sont rentrés en lutte contre des pouvoirs qui sont soit des monarchies, soit des républiques. des monarques qui se maintiennent en général au pouvoir pendant des décades. Le roi de Jordanie, par exemple, le père, s'était maintenu au pouvoir pendant 47 ans. Le sultan d'Oman actuel est au pouvoir depuis 43 ans. Mais je dois dire, au niveau des pouvoirs républicains, c'est pas beaucoup mieux parce que on sait que Kadhafi, qui n'était pas un roi, s'est maintenu au pouvoir pendant 40 ans. Et quand ils ne se maintiennent pas au pouvoir, de toute façon, pendant des périodes aussi longues, ils intronisent, si on peut dire, leur fils pour être le futur président au prix de manœuvres, genre modification de la constitution. C'est ce qui a d'ailleurs permis à Bachar el-Assad de prendre la suite de son père. Et par ailleurs, bon, sur la nature de ses pouvoirs, ce sont des pouvoirs largement patrimoniaux, c'est-à-dire que ce soit des rois ou des présidents, c'est des pouvoirs qui s'accaparent les richesses et les redistribuent dans leur propre famille, et puis c'est entouré de pratiques mafieuses, dont même certains capitalistes se plaignent parce que ça empêche le capitalisme de tourner en rond, si on peut dire, capitalisme traditionnel, tellement les mafias sont fortes.
Et quel genre de répression à quel genre de répression les peuples s'attendaient-ils ?
C'est-à-dire que la répression était mise en place depuis des années, était déjà connue. Donc en fait, ils savent très bien à quoi ils sont exposés. Selon les pays, ça va de l'arrestation, la torture, la disparition pure et simple. Pour certains pays, c'est une politique délibérée. Et les exécutions extrajudiciaires. On a vu que dans le cas syrien, on ne s'y attendait pas, mais c'est le cas, on a même eu, et c'est une première, je crois, dans l'histoire de l'humanité, qu'un régime attaque son peuple avec des missiles. Et puis, très récemment, on a vu l'usage d'armes chimiques d'un pouvoir contre son propre peuple et non pas contre, je dirais, l'étranger, avec toutes les précautions et les guillemets d'usage au mot étranger.
Quelle évolution on peut constater de ces mouvements pendant ces deux années ?
Alors ces mouvements sont partis en général sur une revendication qui a fait l'unanimité de toute une population, à savoir la chute du régime en général, comme je l'ai dit au début, souvent assortie de revendications type liberté, le pain, halte à la corruption, etc. Et c'est des peuples entiers dans la mesure où c'est des populations, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, musulmans, chrétiens, kurdes, berbères, qui se sont lancés dans les mouvements sans aucune distinction et sans différence de mot d'ordre. Avec le temps, il y a un certain gros nombre de groupes opprimés qui ont fait entendre des revendications spécifiques ou qui sont rentrés en lutte sur leur propre base. Alors, on pourrait citer pêle-mêle les Berbères, là je parle de la Tunisie et de l'Égypte, les femmes dans toute une série de pays, avec création même de mouvements féministes, hein, pas seulement de luttes, des groupes sociaux, presque, que je mets sociaux, ethniques opprimés, je parle de les Ardames au Yémen ou les apatrides de Koweït, des groupes, des minorités confessionnelles, même si elles sont nouvelles, c'était le cas du sit-in de la minorité sunnite en Irak, etc. C'est-à-dire qu'ils ont dû sentir que c'était l'occasion pour eux d'avancer des revendications qu'ils n'avaient même pas pu dire. C'est pas seulement qu'ils n'avaient pas été entendus, ils n'avaient pas pu les exprimer pendant un demi-siècle. Et donc tous ces mouvements se sont développés. Après, il y a eu aussi une nouvelle forme de mobilisation sur des problèmes qui n'avaient pas été l'objet de lutte jusqu'à maintenant, de façon générale, à l'exception de 2010, puisqu'on a vu un grand mouvement des écoliers du Koweït contre la pollution. Et quand je dis écolier, c'est pas lycéen qui avait refusé d'aller à l'école pendant 3 jours pour protester contre la pollution. Donc je parle des mouvements écologiques qui explosent absolument partout parce que c'est comme c'était des bourgeoisies qui visaient le profit à court terme. Donc on exploite, on construit des usines, mais en se fichant royalement du lendemain. Donc effectivement, la pollution n'était pas un souci. Donc les zones industrielles, c'est des zones où tout le monde est malade. Donc on a des populations qui sortent dans la rue, là aussi, parce qu'elles en ont marre de mourir de cancer et qui exigent qu'on mette fin à la pollution, qu'on traduise en justice les propriétaires d'usines, qu'ils aient des soins gratuits, etc., etc. Ça, c'est des luttes qui ont été très fortes en Tunisie, par exemple, et dans le sultanat de Oman. Et puis, avec, quelquefois, l'apparition de luttes, alors là, beaucoup plus organisées, comme ça a été le cas, par exemple, contre le gaz de schiste en Tunisie, où là, c'est pas des mobilisations spontanées, c'est des cartels d'organisations anti-impérialistes, de gauche, écologistes, et de scientifiques, qui se mobilisent pour que Shell ne perfore pas le sous-sol et le sol en Tunisie, à Kairouan, exactement.
Alors, on a interviewé Ola Abbas il y a quelques temps, et elle terminait l'interview par nous poser la question « Où est la conscience humaine ?» Et depuis cette interview, il y a eu d'autres massacres, notamment celui dont tu parlais à Damas, à l'arme chimique, mais aussi en Égypte, du nouvel État contre les frères musulmans. Ne penses-tu pas, comme elle et comme d'autres, qu'il y a un problème international dans la non-réaction pas seulement des États, mais aussi des individus face à ces massacres?
Alors, je pense déjà de façon générale, vis-à-vis de ces révolutions, il y a eu un manque de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain engouement au début pour ce qu'a été la révolution tunisienne, puis la révolution égyptienne, et puis la solidarité est très très vite retombée quand tous les autres peuples sont rentrés en lutte. Et ça, c'est pas spécifique à l'année 2011-2013, c'est un phénomène auquel on assiste de façon générale. Et plus particulièrement, il y a quelque chose qui est très grave, c'est qu'on peut laisser passer maintenant des crimes contre l'humanité et des génocides sans que ça suscite de réaction. Et je ne prends pas pour exemple la Syrie parce que c'est pas un génocide, mais je veux dire que autant avant, dans un continent comme l'Europe, on disait plus jamais ça, et on pensait que la force de la mémoire serait suffisante. Ça a peut-être été suffisant jusqu'au moment de Srebrenica, où il y a eu des mobilisations importantes pour le massacre. Mais après, j'ai observé que au moment du Rwanda, il y a eu une absence totale de mobilisation à la hauteur. Et là, le cas syrien, où le nombre de morts en Égypte en est un autre exemple. C'est-à-dire qu'on dirait que la vie humaine ne compte pas, ou que une politique exterminatoire n'est pas une politique, alors qu'il y a le mot politique dedans. Et du coup, ça suscite un certain désintérêt. Et même pas d'empathie pour les victimes ou les survivants ou les rescapés de ces tragédies.
Thank you.
Merci Lise pour cette interview. Tu voulais rajouter une information?
Oui, Louisa Toscane a écrit un article complet sur le thème des révolutions arabes que vous retrouverez sur le site de la revue libertaire Divergence.
Alors on va enchaîner avec l'interview que tu as réalisée de Clément RESF.
Oui, alors en fait, l'interview elle est découpée en plein de parties. J'ai abordé avec Clément la question de la rentrée, mais une autre rentrée, hein, pas comme celle que tu évoquais dans ton édito, celle des sans-logis. Puisque ce moment-là de l'année, cette rentrée, a été marqué par l'événement qui a surpris tout le monde par son ampleur, sa durée et le soutien qu'il a suscité dans la population clermontoise. Il s'agit du mouvement des 360 personnes qui avaient recours à l'hébergement d'urgence, qui ont été mises à la rue le 2 septembre, c'est-à-dire la veille de la rentrée des classes. Pour revenir sur ces deux semaines intenses de mobilisation, je suis donc allée voir hier Clément du réseau Éducation sans frontières, donc RESF. Et pour commencer, je lui ai demandé de présenter RESF.
Alors RESF, c'est un réseau, en fait un collectif d'associations qui regroupe à la fois des syndicats, des assos, des compagnies de théâtre, des associations spécialisées sur le droit des étrangers comme la CIMAD, tout ça. Qui se bat donc à l'origine pour scolariser les enfants de sans-papiers. Au départ, ça a été créé pour ça il y a une quinzaine d'années. Et après, ça s'est élargi en fait à la lutte pour les parents d'enfants scolarisés, donc qui étaient sans-papiers. Et puis après, plus largement, à tous les sans-papiers, pour défendre le fait qu'ils soient régularisés tous, quoi.
Et donc, la veille de la rentrée scolaire... Et donc, la veille de la rentrée scolaire, l'association clermontoise qui assure l'hébergement d'urgence, la NEF, a mis à la rue 360 personnes. Il y a un problème de financement et la NEF choisit ce jour pour le dénoncer de manière spectaculaire. Les sans-logis se retrouvent sur la place centrale de Clermont, la place de Jaude. Le soir, l'église des Minimes, place de Jaude, ouvre ses portes et se propose de les héberger pour la nuit. Et à 4h du matin, les sans-logis sont évacués dans un lieu sûr, la rue, à cause d'un incendie dans l'église. Le lendemain, c'est la rentrée. Alors, comment ça s'est passé ?
Bah, ça a été un peu compliqué, mais disons qu'on s'est organisé entre nous pour, vu qu'on était tous au même endroit, on a organisé des départs en voiture avec des militants, en tram. Donc on s'est débrouillé. Et puis les familles ont l'habitude en fait de se débrouiller comme ça, parce qu'avant, quand elles étaient logées en hôtel, elles tournaient toutes les semaines en général d'hôtel en hôtel. Donc du coup, chaque semaine, il fallait qu'elles se débrouillent pour trouver un nouveau trajet pour emmener leurs enfants à l'école. Donc là, en fait, on a juste continuer un peu ce système-là en s'organisant un peu collectivement et en faisant des transports un peu collectifs pour les enfants, etc.
Le camp s'est établi en fait pour 10 jours devant l'église sur la place de Jaude. Chaque jour, on fait la liste des besoins urgents sur le camp et la liste est diffusée par mail, Facebook ou texto et les Clermontois vont venir apporter leur aide. Au début, on manquait d'eau, puis on a bricolé avec l'aide des travailleurs du parking souterrain, juste en dessous, et puis finalement, il y a eu une solution avec la mairie. Mais au début, un petit message et des litres d'eau affluaient. Même chose pour les habits de bébé, les couches ou même le mitosil. Donc ça, c'est mon petit plaisir personnel. C'est la pommade sur les fesses des bébés irrités. Et il y avait des montagnes de mitosil et ça me remplissait de bonheur. Bon. La vie en famille avec des très jeunes enfants sur le pavé est très compliquée. Il a d'abord fait chaud, sans eau c'était dur. Ensuite il a plu, il a fait froid. Donc la CGT avait prêté des barnums. Mais la pluie, avec la pluie, tout allait être mouillé, être pourri. Donc il fallait trouver une solution pour ne pas mouiller les matelas. On a lancé un appel pour récupérer des palettes afin de tenir les matelas au sec. Et là encore, il y a eu un incroyable élan de solidarité. En un jour, on avait récolté assez de palettes pour couvrir donc 3 barnums de 30 mètres carrés chacun. Et qui a permis donc aux sans-logis de rester encore malgré la pluie. Mais qui sont exactement les expulsés du 115 au juste ?
Pour une très grosse majorité, c'est des étrangers qui sont dans différentes situations. Certains viennent d'arriver en France, certains sont en cours de demande d'asile, certains sont en cours de demande de régularisation. Donc c'est juste un titre de séjour pour reconnaître leur présence sur le territoire. D'autres sont arrivés au bout de toutes les procédures et sont sans papier, donc c'est-à-dire qu'on leur a refusé de reconnaître leur présence sur le territoire. Là, eux, ils peuvent qu'attendre que la situation se débloque d'une manière ou d'une autre. Donc c'était principalement des étrangers qui sont dans le système d'urgence. Vu qu'ils sont en cours d'attente de papier, ils n'ont pas le droit de travailler. Quand ils sont sans papier, ils n'ont pas non plus le droit de travailler. Donc en fait, ils sont coincés dans ce système d'aide d'urgence. Et depuis maintenant, on va dire depuis la période Sarkozy, quoi. Du coup, sur les 5, 6, 7 dernières années, où la régularisation est devenue très compliquée, du coup, c'est des gens qui on les fait poireauter pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans jusqu'à ce que toutes les procédures soient terminées. Et puis après, en général, on leur dit que ça serait bien qu'ils quittent le territoire français. Donc une fois que leurs enfants sont bien habitués à la vie en France, parlent le français, connaissent plus forcément leur pays d'origine, etc. Donc on aboutit à des situations humainement hyper dures, quoi.
Tu peux donner des exemples de pays d'origine ?
Bah, par exemple, sur le camp, on avait des Kosovars, des Albanais, des Serbes, des Tchétchènes, des Congolais, des Sierra Leonais, des Guinéens. On avait des Mongols. Enfin voilà, des gens d'un peu partout en fait dans le monde qui ont fui en général des situations très dures. Par exemple, voilà, les Roms qui viennent des Balkans, ils vivent des situations très dures là-bas parce que suite à la guerre, suite voilà, c'est toujours des situations de pays d'origine très compliquées, ou des Roms de Roumanie pour qui là-bas ils n'ont pas forcément le droit de travailler à part au black et du coup dans des conditions affreuses. Donc voilà, il y a plein de raisons en fait qui les ont poussés à partir. Et bon, quand même assez souvent, on retrouve ou la guerre ou des discriminations connues et reconnues par Amnesty International, par tout ça, quoi.
Et les Français qui étaient sur le camp, qui aidaient à organiser, c'était qui ?
Eh ben, en fait, à la base, il y avait ceux qui ont en fait fait la tournée des hôtels pour aller la veille du 2 septembre pour expliquer aux gens que voilà, ils allaient être mis dehors. Enfin, les gens le savaient qu'ils allaient être mis dehors, mais pour leur donner rendez-vous à Jaude pour qu'on se retrouve et qu'on se batte ensemble. C'était principalement des gens de RESF. Et après, là où on a été surpris, c'est de la solidarité que ça a déclenché. Et y a des gens qui sont venus d'un peu partout. Des gens qui étaient dans des mouvements alternatifs, ou dans des assos, ou dans des partis, ou dans les syndicats. Mais ou des simples citoyens qui ont vu ça, qui ont été choqués, qui ont donné un coup de main, quoi. Il y a l'exemple d'une fille qui est arrivée, qui a en fait passé place de Jaude juste pour aller poser son chèque à la banque. Et en fait, elle a mis 5 jours à y aller parce qu'en fait, elle est passée sur le camp et elle a vu qu'il y avait des trucs à faire. Du coup, elle a donné un coup de main. Du coup, la banque était fermée, etc., etc. Et de fil en aiguille, en fait, elle a posé son chèque avec une semaine de retard alors qu'elle passait par là par hasard, quoi.
Très vite, les sans-logis ont une réflexion politique de leur situation. Et quand BFM, ITélé, TF1 viennent faire des reportages, ils mettent en avant qu'ils ne veulent plus être ballottés d'un hôtel pourri à un autre et que maintenant qu'ils sont là, place de Jaude, visible de tous, ils y restent jusqu'à ce que l'on leur propose une solution pérenne. Bref, ils replacent un problème qui pouvait ne sembler seulement humanitaire comme un problème éminemment politique. D'ailleurs, le mouvement n'est pas seulement l'occupation d'un bout de la place de Jaude. Il s'accompagne aussi de manifestations environ tous les deux jours, avec une animation terrible, entre autres grâce aux gamins qui adorent prendre le micro et scander « tous ensemble, ouais, ouais » ou encore « un toit, c'est un droit ». Lors de la prise de parole à la fin d'une des premières manifs, une femme parmi les sans-logis prend le micro pour lire une lettre qu'elle a écrite et qu'elle adresse à la Cour européenne des droits de l'homme. Écoutez.
Nous écrivons cette lettre de la part des demandeurs d'asile et des sans-papiers de Clermont-Ferrand. En effet, le 1er septembre 2013, avant de la rentrée scolaire, l'ANEF de Clermont-Ferrand, sans aucun préavis, a expulsé 352 personnes, dont 106 enfants, des femmes enceintes, des personnes malades, des personnes âgées et des handicapés, qui se sont retrouvées à la rue. Ceci est complètement illégal et c'est une véritable tragédie humaine dans un pays respectueux des droits de l'homme et de la dignité humaine. Et ceci est contraire à la Constitution 1946 qui stipule « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité de moyens convenables d'existence. » Comme la préfecture de Clermont-Ferrand dit ne pas avoir trouvé en cours des solutions malgré la situation dramatique de ces personnes, nous vous demandons d'intervenir pour faire respecter les droits et l'égalité humaine. Nous vous remercions de prendre en considération notre demande.
Cette lettre, c'était son initiative, mais pour le reste, on peut se demander si les militants français n'ont pas orienté le mouvement. Voici la réponse de Clément de RESF.
On est quand même assez nombreux à s'être battus pour que la ligne, ce soit eux qui la posent, que ce soit les sans-logis qui la posent. Parce que déjà, c'est pas notre lutte à nous, on a des papiers, on a un toit, c'est pas à nous de venir dire « faut faire ci, faut faire ça ». Et moi, ils m'ont bluffé par leur courage et par leur détermination, quoi, parce que... quand on sait que la pluie va arriver, qu'on dort sous une tente, qu'on est, on va dire une trentaine sous un barnum de 30 mètres carrés, faut pas mal de courage pour dire, j'en ai rien à foutre, je reste ici, je préfère galérer une semaine de plus vue par tous, plutôt que d'aller galérer un peu moins, deux, trois semaines, un mois, et caché, quoi. Et cette décision-là, moi, je pensais que c'était la plus efficace, quoi, celle qu'il fallait défendre, mais c'est eux qui l'ont défendue, et nous, on s'est acharnés à relayer leurs paroles, mais en prenant garde que ce soit, que ça reste la leur, et pas les emmener dans des défis, dans nos luttes à nous, quoi. Alors après, avec des réussites et des échecs, parce que ben il y a des fois la barrière de la langue, des fois il y a tout ça, mais on arrivait à peu près à s'organiser avec des traducteurs, des fois des tout jeunes enfants qui sont en France, qui sont à l'école, donc du coup qui parlent bien français, qui traduisent pour les parents, pour les anciens, qui eux, exprimaient des choses très claires et très très politiques en termes de lutte, quoi. Et du coup de découvrir aussi que ben certains parmi eux sont des réfugiés politiques. Ont une pratique, une conscience politique, une analyse politique des choses. Et voilà, il y avait des gens avec qui on discutait, qui disaient, moi je me suis barré de mon pays parce qu'on refusait que, notamment par exemple sur la guerre du Kosovo, où après apparemment il y a eu une grosse bataille entre les fachos qui disaient, non le Kosovo rien que pour les albanophones et tous les autres on les vire, donc les Serbes, les Roms et machin, et ceux qui se battaient pour dire, on a un territoire et tous ceux qui sont sur ce territoire-là, maintenant on les accueille comme des citoyens à part entière, même si c'est des minorités, etc. Et voilà, et ceux qu'on a eu à Clermont, entre autres, c'est des gens comme ça qui défendaient que leur pays reste ouvert et qui arrivent en France et qui se rendent compte qu'il faut mener les mêmes batailles ici contre une idée un peu fasciste de faut rester entre nous, pas s'ouvrir, pas accueillir les autres gens.
Je n'ai pas discuté de la fin du camp avec Clément. En résumé, le samedi qui suit le début du mouvement, la justice donne raison aux expulsés du 115 et oblige le préfet à trouver une solution. Des budgets sont débloqués et la nef reprend ses activités petit à petit. Mais les campeurs ne sont pas satisfaits. Leur mobilisation n'était pas préméditée, mais maintenant qu'ils ont ce pouvoir d'être visibles et d'avoir des revendications audibles pour tous, les expulsés préfèrent lutter encore que retourner à leur situation d'invisible et de sans droit. La préfecture a mis à disposition un gymnase du centre-ville qui ne peut pas accueillir tout le monde, mais on invite les mamans et les enfants à y dormir. La pression monte pour que les gens évacuent la place de Jaude. La deuxième semaine, le camp est toujours là, mais chaque nuit, des fourgons de CRS viennent et font des rondes. Mercredi, les militants décident de lever le camp, c'est-à-dire de démonter les barnums que la CGT avait fournis. On pourrait d'ailleurs discuter de cette décision, en tout cas... Le jeudi, il ne reste qu'une tente comme point de rencontre et d'information et quelques affaires qui sont données aux associations. Le vendredi, il y a un nettoyage complet de tout ce qui pouvait rester par quelques 15 fourgons de CRS. Il y avait beaucoup de boulot, enfin 15 fourgons, c'était un peu... Mais bref. Mais les gens sont toujours là, dispersés à Clermont-Ferrand, de retour dans des hôtels ou dans un bâtiment, une ancienne cité U, ouvert en urgence au 77 rue Anatole France, ou encore, pour les hommes célibataires, dans des algécos collectifs. Alors, les algécos, c'est quoi? D'après Clément, c'est des containers avec du lino dedans. Voilà, ils ne sont plus à la rue, mais l'hébergement que on leur offre est vraiment misérable. À Anatole France, par exemple, il n'y avait pas de matelas, ni de quoi cuisiner. Bref, un toit, mais rien de plus. Après des décennies, voire des siècles, durant lesquels l'État français importait massivement des travailleurs, des étrangers immigrants, les étrangers immigrants ne sont plus considérés comme des bataillons de travailleurs. C'est aujourd'hui une Europe forteresse, avec plusieurs rangées de remparts qui se dressent, droites comme un buste d'Hitler. Ainsi, en fonction des besoins économiques et idéologiques, un étranger n'a pas la même valeur. Aujourd'hui, les lois sur l'accès au statut de résident ou à la nationalité sont hyper sélectives. Du coup, les demandeurs d'asile restent des années en France dans l'attente d'un statut qu'ils n'obtiennent parfois jamais, des parcours de vie dramatiques qui n'existent que pour alimenter le racisme primaire. Alors qu'il serait si simple de leur donner un statut qui leur permette de travailler et de vivre décemment. C'est aussi la conclusion de Clément.
Politiquement, il n'y a plus personne qui défend le fait qu'il faut régulariser tout le monde, alors que ça serait la... Pour moi, ça serait la seule manière de résoudre l'engorgement du 115 qui a créé la crise qu'on a vue, avec le désengagement de l'État. Mais il y a beaucoup de gens dans le service d'hébergement d'urgence et des gens qui ne peuvent pas en sortir tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Et c'était vraiment la revendication principale des familles, enfin des gens, de tout le monde. Donnez-nous juste le droit de travailler et à partir de là, vous ne nous verrez plus. On va faire notre vie, on va bosser légalement, on va se faire une petite couverture sociale, on va payer des impôts si on travaille assez, on fait ci, on va faire ça. Et c'est tout ce qu'ils demandent en fait. Ils ne demandent même pas que l'État leur donne un hébergement. Ils leur demandent juste qu'on reconnaisse qu'ils sont là et qu'on leur donne le droit d'être là et de faire comme tout un chacun. Et à partir de là, ils feront leur vie, quoi.
Pour terminer, à propos des sans-logis de Clermont-Ferrand, Hortefeux, Brunas, le candidat de droite à la mairie de Clermont et même Valls ont cité la phrase de Rocard : « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Mais la misère, messieurs, c'est pas les gens. La misère, c'est de réduire les allocations chômage, les retraites ou la couverture santé, ou bien c'est d'empoisonner les gens, par exemple, avec un incinérateur. La misère, si l'on veut vraiment pas d'elle, alors on va être obligé d'abolir le capitalisme. Et pour ce faire, on peut commencer par dégager les plus fachos d'entre vous. Je vous dédicace, messieurs et mesdames, une chanson de manif retrouvée dans mes placards.
Ils veulent faire croire à toute l'opinion que les sans-papiers c'est un fléau pour le pays. Ils veulent faire croire à toute l'opinion que les sans-papiers c'est un fléau pour le pays. Mais les hommes aujourd'hui ont le droit de décider de leur vie. Mais les hommes aujourd'hui ont le droit de décider de leur vie. Go go les fachos, y'en a marre des lois Sarko. Régularisation pour tous. Go, go, les fachos, y'en a marre des lois Sarko. Régularisation pour tous. Ils veulent faire croire à toute l'opinion que les sans-papiers, c'est un fléau pour le pays. Ils veulent faire croire à toute l'opinion que les sans-papiers, c'est un fléau pour le pays. Mais les hommes, aujourd'hui, ont le droit de décider de leur vie. Mais les hommes aujourd'hui ont le droit de décider de leur vie. Go, go, les fachos, y en a marre des lois Sarko. Régularisation pour tous. Go, go, les fachos, y en a marre des lois Sarko. Régularisation pour tous.
Des choses étranges, des trucs pas nets, de parler à l'envers et de raconter des histoires sans queue ni tête. T'es devenu bizarre, imprévisible, déconcertant, rank, cryptique. Certains disent même qu'ils t'ont vu à ta fenêtre le soir parler aux satellites. Pourtant t'es beau, comme une comète, j'étais dans la peau, j'étais dans la tête. Et quand bien même, y'aurait que moi, tu peux pas t'en aller comme ça. Parce que t'es beau, comme une planète, j'étais dans la peau, j'étais dans la tête. Je te le répéterai, tant qu'il faudra, tu peux pas t'en aller comme ça. Et puis tu feras quoi, Canet, dis-moi, t'auras l'air fin. Ça sert à quoi, Canet, dis-moi?
Émission Panthère Rouge de 18h à 19h. Et on retrouve Clément. Alors Clément, c'est la rentrée, ça va?
Ben, ça va et toi?
T'as passé des bonnes vacances?
J'ai pas passé de mauvaises vacances.
Alors voilà. qu'est-ce que t'as fait pendant les vacances?
J'ai fait des châteaux de sable.
Des châteaux de sable.
Et puis j'ai lu un petit peu, j'ai lu des livres, comme un grand garçon.
Alors qu'est-ce que t'as lu?
Je suis retombé sur un livre qui s'appelle La fabrication du consentement.
De Noam Chomsky.
Et Edouard Herman. Donc, Chomsky, c'est un, à l'origine, lui, il a une formation de. Enfin, lui, il est linguiste à l'origine, il parle pas mal de langues. Lui, il se décrit comme étant anarcho-syndicaliste, mais. Si on pose la question à nos amis de la CNT, je pense qu'ils seront pas tout à fait d'accord. Cela dit, il a quand même une analyse des médias qui est très intéressante, et donc la fabrication du consentement, c'est un petit peu le guide de comment fonctionnent les médias. Et donc, y a une première partie où il explique ce qu'il appelle les filtres, ce qui conduit au modèle de propagande. Et ensuite, la majeure partie du livre, c'est des cas particuliers où il met en pratique un peu, il met à l'épreuve son modèle de propagande. Donc c'est souvent des exemples qui sont plus issus de, disons, de problématiques américaines. Que nous on n'a pas forcément vécu comme ça en France, mais les filtres qu'il met en place, je pense, sont valables à peu près partout.
Donc là, il parle de la propagande capitaliste essentiellement.
Il parle de
la propagande des États-Unis.
En fait, il parle du fonctionnement des médias de masse, donc forcément, les médias type capitaliste. Voilà.
Tu veux dire qu'en fait, ce qu'on voit à la télé, c'est pas.
Voilà.
Il y a une propagande dedans déjà.
Voilà, ce qu'on voit à la télé, dans les journaux, à la radio. On s'en doute tous, en fait, quelque part, mais c'est pas forcément. Aussi simple que ça d'expliquer le pourquoi du comment.
Oui, parce qu'il n'y a pas de censure.
Voilà, comment est-ce qu'on en arrive, en fait? Lui, en fait, le sous-titre donc, du livre, c'est de la propagande médiatique en démocratie. C'est-à-dire que comment est-ce que, sans qu'il y ait de ministère de la propagande, ou de, bon, bien qu'il y ait un ministère de la communication en France, en fait, comment faire pour que... les médias aillent dans le bon sens, dans le sens des dominants, sans pour autant qu'il y ait une censure autoritaire.
Alors on fait comment
Alors déjà, il vous faut le capital.
Ah.
Il vous faut l'argent, la monnaie.
Voilà, ah oui, comme premier... ça on possède voilà. les journaux.
C'est ça. Le premier filtre, il l'appelle taille actionnariat orientation lucrative, et donc il explique qu'en fait dans la première moitié du 19e siècle, il y avait notamment chez nos amis britanniques énormément de médias ouvriers, et que l'État tentait par tous les moyens, donc taxes, des lois, des leur mettait des procès, etc., par tout un tas de moyens, ils essayaient de leur mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'ils se rendaient bien compte que c'était pas forcément bénéfique pour eux si les ouvriers avaient un média commun et qu'ils pouvaient s'unir d'une certaine manière. Mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Et ce qui a fonctionné, en fait, c'est quand ils ont arrêté de mettre des bâtons dans les roues des médias, et que petit à petit, les détenteurs du capital qui ont investi massivement dans les médias. Et en fait, donc c'est ce qu'on appelle l'industrialisation de la presse. Et en, Et en fait, petit à petit, même pour le moindre petit journal, il fallait débourser des quantités d'argent phénoménales. Et donc c'est le premier filtre qui fait que, en fait, seuls ceux qui ont l'argent peuvent vraiment s'exprimer via un média, quel qu'il soit, en fait, que ce soit une chaîne de télévision, un journal ou une radio. En fait, c'est un livre qui a été écrit il y a quelques temps maintenant, qui a été écrit en 88, et donc il dit en 88, les 29 plus gros groupes contrôlaient à eux seuls plus de la moitié de la presse écrite et la quasi-totalité des radios, chaînes, magazines. Donc ça, c'est aux États-Unis, mais en fait, c'est valable, c'est quasiment les mêmes proportions un peu partout dans les pays occidentaux. Donc ce premier filtre, il permet déjà, premièrement, d'imposer un point de vue, c'est-à-dire que les gens qui ont ces médias-là, ils vont être tentés de prêcher pour leur paroisse. Donc en fait, ça c'est le premier filtre. Ensuite, le deuxième filtre, c'est la régulation, ce qu'il appelle la régulation par la publicité, en fait. Et donc parce que c'est des actionnaires, et donc eux, ce qu'ils cherchent, c'est quand même le profit. Et comment est-ce qu'on fait du profit? Ben, c'est en vendant de la publicité. Donc deuxième filtre, la régulation par la publicité. Toujours pareil, les publicitaires vont pas accueillir d'un très bon œil le fait qu'on remette en cause un système auquel ils participent. Déjà, il y a si on lance un média critique, ce sera compliqué de se faire financer par la publicité. Ça, c'est la première chose quand je vends la publicité. La deuxième chose, c'est aussi que, en fait, tous les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, sont en fait vus comme des consommateurs. Il y a ce qu'il appelle une sorte de d'élection censitaire, c'est-à-dire que l'information est en fait destinée à des gens qui ont un certain pouvoir d'achat. C'est pas intéressant d'aller parler à des gens qui vont voir les publicités mais qui de toute façon pourront pas consommer. Donc en fait la publicité permet de donner
une image de la société qui est celle d'une petite bourgeoisie.
Ou... Voilà, et donc actionnariat, publicité, et il dit aussi, le troisième fil qu'il met en place, c'est les sources d'information. C'est-à-dire que vu qu'on est dans une logique marchande, on cherche la rentabilité à tout prix. En fait, ce qu'on donne, c'est pas de l'information, mais c'est bien. On parle bien de business, quoi. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour donner de l'information en continu? Parce que c'est ce qui se passe, en fait. Il y a un flux d'informations qui arrive en continu. C'est pas. On n'attend pas qu'il y ait un sujet intéressant. En fait, ce qu'il faut, c'est parler pour pouvoir vendre de la publicité et gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on va voir à peu près toujours les mêmes personnes, les personnes qu'on considère déjà premièrement comme crédibles. C'est souvent les gouvernements ou les grands industriels. Ça permet de. Lui, il dit, il y a une sorte de division du travail, en fait. Il y en a qui réfléchissent, qui pensent, c'est les politiques ou les industriels, et puis il y a les journalistes qui, en fait, leur seul rôle, c'est de relayer l'information. Ils n'ont aucune vision critique par rapport à tout ça. Donc voilà, ça c'est le problème des sources d'information. Ensuite, le quatrième filtre qu'il met en place, c'est les contre-feux. Contre-feu, c'est-à-dire que dès que on va s'éloigner un petit peu de la ligne directrice, il va y avoir des groupements qui vont s'organiser pour remettre les gens dans le droit chemin, et au rang desquels, par exemple, la Freedom House, faut savoir que dès qu'il y a un groupement américain qui contient le mot freedom, c'est jamais bon signe en fait. Donc là, en l'occurrence, c'est pas super bon signe parce que c'est financé par l'Anti-Communist League et par la CIA. Donc voilà, quand Freedom House, oui, je sais pas, la liberté pour qui, peut-être de.
Et donc ils font quoi ces groupes ?
Eh ben, ils font des pressions pour que. Du lobbying en fait. Donc il y a plusieurs moyens pour ça. Soit ils inondent, ils donnent des informations qui n'ont rien à voir, ils donnent massivement des informations qui n'ont rien à voir pour qu'on parle d'autre chose, ou alors ils rentrent dedans, quoi. Ils mettent des procès, ils font des choses comme ça. Et le dernier filtre, c'est l'anticommunisme. Et en fait, l'anticommunisme, aujourd'hui, bon, même s'il est toujours présent, ça existe toujours aux États-Unis, mais en fait, bon, le nouvel ennemi, c'est Al-Qaïda, c'est les barbus, quoi, les extrémistes, les extrémistes musulmans, c'est ça le nouveau cheval de bataille. Et en fait, c'est intéressant, il dit qu'en 79, il y a eu une sorte de réunion à Jérusalem où, en gros, ils expliquaient la nécessité de créer un lien entre terrorisme et anticommunisme. Donc 10 ans plus tard, plus ou moins, le modèle communiste se casse la gueule. Mais le terrorisme, lui, a toujours un très bon filon qui continue d'être exploité encore à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est les 5 filtres de Noam Chomsky. Et je vous conseille cette lecture.
Eh ben merci Clément.
Désolé. Pardon.
Alors... Oui, alors l'émission de Panthère Rouge se termine. Cette émission a été réalisée par Claire, Lise et Clément et à la technique Lucille.
Nous avons écouté plusieurs morceaux. Donc au début, c'était un rappeur grec antifasciste qui l'a... J'ai pas tout son nom, Clémenta. Bon, un nom grec, qui a été assassiné cette semaine par Aube Dorée. C'était un hommage qu'on faisait en mettant cette musique.
Donc c'était Palos Frissas, qui a été assassiné par un permanent même de la section dorée.
Section pratique, bref. Ouais. On a écouté Adèle Salamé et Nazia Azouz, et puis Fauve. Et là, tout de suite, on écoute du jazz contemporain.
Drifting Box Celebration, un groupe clermontois.
À l'agenda, alors j'ai une première date que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est tous les lundis à 18h, il y a Réunion RESF au centre Jean Richepin et c'est ouvert à tous.
Sinon, le mardi 1er octobre à 18h à la fac de lettres, il y a une réunion publique pour défendre nos retraites, nos emplois, notre avenir. Donc c'est organisé par le collectif 63, la retraite, une affaire de jeunes.
Et il y a aussi une date le 28 septembre, une journée contre le viol. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais... Notez cette date sur votre agenda que vous avez acheté pour la rentrée.
Alors, on va remercier Clément
de RESF et Louisa Toscane.
Et vous pouvez réécouter nos émissions sur le blog, donc audioblog.arteradio.com/panthèrerouge.
Et nous écrire sur panthèrerouge, tout attaché, 93.3 en chiffres, @gmail.com.
Et a priori, on se retrouve le 20 et
octobre.
Le 20 octobre. Et en décalé, donc l'émission Greenwatching qui parle d'écologie, a priori.
Voilà, le dimanche de 18h à 19h.
Premier dimanche du mois. Eh ben, on se laisse, mais comme dit l'ami Colin, surtout,
ne lâchez rien.